Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Un grand d'Espagne ce matin dans Laissez-vous tenter. Le romancier Arturo Pérez Reverte publie Deux hommes de bien ou les aventures rocambolesques de deux académiciens espagnols à la recherche de la première édition de l'encyclopédie dans le Paris d'avant la Révolution. Rencontre avec Bernard Lehu. Au sommaire du journal musical de la semaine, les confidences d'Alain Chamfort sur son prochain album au micro de Steven Bellery et Carla Bruni qui prête sa voix à un conte pour enfants. Sur le plateau télévisé d'Isabelle Morini-Bosque, Candice Renoir ce soir sur France 2 et dimanche toujours sur France 2, la première diffusion en clair de la famille Bélier avec les débuts de la comédienne Louane. Charlotte Arrigoni nous livrera les express du jour de Laissez-vous tenter, sans oublier une idée de spectacle proposée par Monique Younes. L'humoriste Fellag, après avoir triomphé à Paris, est en tournée avec son one-man show Blade Runner, Blade B-E-L-D, B-L-E-D, hein, vous l'avez compris, qui bouscule les clichés opposants français et algériens.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter.
Mais avant tout, c'est la nouveauté musicale du jour. Calogero est de retour. Le chanteur publiera à la rentrée un nouvel album. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Le tout premier extrait vient d'être dévoilé.
Oui, près de 3 ans après le triomphe des feux d'artifice, 750 000 exemplaires vendus, Calogero vient de terminer l'enregistrement de son 7e album, un disque qu'il a créé de l'autre côté de la Manche dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres. Chaque album est différent, me confiait Calogero l'an dernier. Vous vous souvenez, ce premier single, les des feux d'artifice, était très politique sur le drame d'Échirol. Cette chanson inédite qu'on découvre ce matin est tout l'inverse. Calo célèbre la musique et son amour du 6e art dans un morceau léger, délicieusement 70s. Calogero signe évidemment la mélodie et il a coécrit le texte avec sa compagne Marie Bastide. La chanson très efficace s'intitule « Je joue de la musique ». Voici le nouveau Calogero.
Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur d'eau. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique, je réfléchis musique, je pleure musique. Et quand je panique, je joue de la
ça fait du bien, je joue de la musique. Oui. Formidable retour de Calogero, il s'affirme vraiment comme un digne héritier de Michel Berger.
Ça s'entend, c'est bien.
Ce morceau rappelle furieusement les titres comme La Bonne Musique ou Musique, écrit pour France Gall. Cette nouvelle chanson de Calo est le premier extrait d'un album à paraître à la fin de l'été. On y retrouvera les plumes d'Alex Baupin, Paul École, auteur du Portrait, et Marie Bastide, sa compagne.
Tellement content d'écouter ça.
Hein. C'est le printemps, c'est léger.
C'est le printemps, vous croyez ? Merci beaucoup, Steven Bellery. On vous retrouve. Exactement. On vous retrouve tout à l'heure pour le reste de l'actualité musicale, dans quelques instants. Dans ce Laissez-vous tenter, les express de Charlotte et puis les audiences de la télévision avec Isabelle Morini-Bosque. Restez avec nous. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les express LVT.
9h05, les express avec Charlotte Arrigoni. Bonjour, Charlotte.
Bonjour, Yves, et bonjour à tous.
Bonjour, Charlotte.
Charlotte.
Roman Polanski sera donc à Cannes le mois prochain.
Oui, le réalisateur de 83 ans va présenter au 70e festival son film D'après une histoire vraie, adaptation du roman de Delphine de Vigan. Film qui sera présenté hors compétition. Rappelons qu'en février, le cinéaste franco-polonais avait renoncé à présider les Césars en raison des poursuites dont il fait l'objet aux États-Unis.
Ils étaient un symbole de Paris. Les cadenas du Pont des Arts vont être vendus aux enchères.
Oui,
bon débarras.
Oui, c'est cadenas d'amour.
Ah non, ça me rendait dingue.
Je trouvais
ça insupportable, tous ces crétins qui mettaient leur...
Et dangereux.
Ah non, mais ça me rendait fou. Pardonnez-moi.
Donc, alors, vous n'avez aucun cœur au 40 ans.
Bien entendu.
Il est cadenassé.
On peut y aller, du coup?
Oui, Charlotte,
Vous me permettez de débattre un peu.
Je vous en prie, ces cadenas d'amour seront cédés le 13 mai prochain au Crédit Municipal de Paris. Ils seront visibles par tous dès le 10 mai. Donc pas par vous, Yves. Les bénéfices seront reversés à 3 associations. Rappelons que ces cadenas accrochés par des milliers de couples venus du monde entier étaient une menace pour le Pont des Arts. Ils s'affaissaient sous leur poids et ils ont été définitivement enlevés en juin 2015.
Bon vent. Alors, à 9 jours du second tour de la présidentielle, l'un des membres des Pink Floyd prend la parole, dites-moi.
Oui, Philippe Corbet, le correspondant de RTL à New York, a rencontré le Britannique Roger Waters, le chanteur de 73 ans, évoque alors avec lui la présence de Marine Le Pen au second tour et il a un avis très tranché sur la candidate du Front National.
C'est une femme très dangereuse. Tous ces nationalistes de l'ultra-droite fasciste, ils vont détruire l'Europe. Ils sont déjà en train de la détruire.
7 millions de personnes en France ont voté pour elle.
Ça ne me surprend pas du tout, mais pourquoi? Il faut résister contre ces conneries. C'est très facile de dire « Oh, c'est horrible, Le Pen a toutes ses voix », mais les gens doivent résister. Il y a une grande tradition, l'esprit de 68, de 36, vit toujours. On doit s'en souvenir et persuader les jeunes qui ne sont pas dans un état désespéré. Et bon sang, ils le seront s'ils ne bougent pas leur cul pour combattre cette connerie. Parce que ce truc nationaliste de droite, c'est très très insidieux.
Roger Waters du groupe Pink Floyd avec Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL.
Les voitures de Cars reprennent la route.
En piste, Cars 3 sera au cinéma le 2 août prochain. Dans ce nouvel opus, notre héros Flash McQueen, après un grave accident, va tenter de reprendre la compétition. Tenter parce que ça va être compliqué. Une nouvelle génération de pilotes surdoués arpente désormais le bitume.
Comment tu te sens?
Je peux pas retourner sur les circuits et recommencer comme avant, ça marchera plus.
On peut pas aller contre le progrès.
Tu sais ce que je ferais, moi?
Quoi?
Je sais pas, j'ai rien trouvé.
Je suis trop contente de vous entraîner. J'adore les défis. D'ailleurs, je vous ai baptisé mon projet senior.
Cars 3 dans les salles, ce sera le 2 août prochain.
Avis aux fans de Lady Gaga, vous pourriez être figurant dans son prochain film.
A Star is Born, c'est le nom de ce long métrage actuellement en tournage avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Sur Twitter, la chanteuse appelle ses fans à venir en jean et en boots les 2 et 3 mai prochains au Greek Theater à Los Angeles. Ils pourront ainsi participer aux scènes d'un concert de country. Il leur en coûtera $12, mais la somme sera reversée à la fondation de Lady Gaga qui vise à encourager l'expression et l'affirmation de soi. Ah
ben c'est sûr que d'expression et d'affirmation de soi, elle n'en manque pas, notre Lady Gaga. Merci beaucoup, Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. On va donc maintenant se consacrer à notre soirée télévisée d'hier. Qu'est-ce qui a marché?
Eh bien, écoutez, en tête, Élysée 2017, le donc, débat avec le Emmanuel Macron sur TF1. 4 500 000 téléspectateurs, c'est plus que Marine Le Pen qui en avait rassemblé mardi 3 700 000. Mais il faut reconnaître que le débat de Marine Le Pen avait été annoncé beaucoup plus tard et que ça avait pris les téléspectateurs par surprise. Donc, grosso modo, c'est un bon score. En deuxième position, Scorpion sur M6, 2 800 000 personnes étaient sur la 6, moins de 12% du public. Et juste devant, 100 000 de plus que The Missing sur la 3, 2 700 000, 11% du public, c'est relativement peu, c'est pourtant une excellente série. Envoyé spécial, là, pour le coup, c'est un échec. Moins d'1 800 000 téléspectateurs, c'est à peine 200 000 de plus que TPMP La Millième en tête de la TNT sur C8. 1 600 000 téléspectateurs.
C'est juste parce que je trouve ça mignon, il y a Shrek qui a encore fait 1 million de téléspectateurs sur TMC.
Oui, 1 100 000. Non, c'est...
C'est
Shrek.
J'ai
ajusté mes yeux, pardonnez-moi.
On peut parler littérature?
Oui.
Je vous remercie.
Gracias.
Donc, bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Vous avez donc rencontré un grand d'Espagne, l'écrivain Arturo Pérez Reverte, dont le nouveau roman Deux hommes de bien paraît jeudi prochain. Nous serons le 4 mai au Seuil.
Oui, Arturo Pérez Reverte,
l'un, si ce n'est le romancier espagnol le plus lu dans le monde, et tout particulièrement en France, et ce, dès son premier livre, en 1993, Le tableau du maître flamand, suivi de bien d'autres succès, vous aviez aimé.
Ah, adoré.
Le maître d'escrime, le peintre des batailles, ou sa série de cap et d'épée, Les aventures du capitaine à la tristée, qui a d'ailleurs, je crois, été adapté au cinéma. Alors, sa marque de fabrique, eh bien, de grands romans historiques et d'aventures, érudits et populaires, bref, tout ce qu'on aime ici.
Mais oui, alors reste-t-il dans la même veine que Deux hommes de bien?
Alors, dans ce nouveau roman, Deux hommes de bien, mais tout à fait, il garde cette veine-là, plus que jamais. Arturo Pérez Reverté, membre de l'Académie royale d'Espagne, raconte le voyage rocambolesque de deux de ses prédécesseurs, mandatés par l'Académie, pour se rendre à Paris et rapporter les 28 tomes de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un ouvrage alors interdit dans la très catholique Espagne. Arturo Pérez Reverté.
J'étais en train de fouiller dans la bibliothèque et j'ai trouvé que c'est l'encyclopédie. Alors j'ai remarqué que c'était la première édition. Et j'ai fait une petite enquête personnelle pour savoir comment ça arrivait là.
Oui. D'ailleurs, vous voit, il y a une photo sur la jaquette du livre à l'Académie où vous êtes plongé dans ces exemplaires de l'encyclopédie.
C'est notre encyclopédie, elle est là. Nous sommes très fiers de l'avoir là. Et j'ai appris que ça arrivait quand était interdit en Espagne. J'ai dit, bon, comment est-ce qu'un livre qui était interdit par l'Église catholique est arrivé et il est à l'Académie? Mais alors, j'ai commencé à faire une enquête personnelle pour mon plaisir et j'ai fini pour voir qu'il avait un roman là. Alors, j'ai décidé d'écrire l'histoire de comment l'encyclopédie est arrivée, l'histoire aventurière, pleine de situations romanesques, comment elle est arrivée là.
Tout le monde est sous le charme de l'accent.
C'est ce qui est sympathique. Ben oui, parce qu'il a un accent très marqué et en même temps, on le comprend parfaitement bien. Donc, lui donne beaucoup de charme.
Oui, et on va donc suivre surtout le périple des deux membres de l'Académie espagnole chargés de cette mission.
Nous étions déjà dans le terrain de la fiction. Alors, parce que moi, je n'avais pas d'informations très précises sur le personnage. Alors, j'ai développé des personnages romanesques. L'un, c'est le bibliothécaire, qui est un homme paisible, érudit, et religieux, éclairé, mais religieux, avec une conception théologique du monde. Et l'autre, c'est l'admiral, c'est un marin, un scientifique, sans foi, athée.
On ne peut pas s'empêcher de penser à un autre duo célèbre de la littérature, en particulier espagnole, Don Quichotte et Sancho. Pense ça, non? Il y a un peu de ça dans ces deux-là.
C'est délibéré. J'ai voulu avoir les parallélismes entre les maigres, l'hidalgue, maigre, sérieux, et l'autre petit, gros, tout ça. Et même les chemins comme aventure et comme dialogue. Et ça c'est Cervantes absolument, ouais.
Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, bien entendu.
Et oui, mais dans sa façon de revisiter par la fiction la grande histoire, Arturo Pérez Reverté, un autre maître. Alexandre Dumas.
J'ai appris ça à Dumas, Alexandre Dumas. Quand j'étais jeune, c'était le premier livre que je lis avec plaisir de lecteur. Ça a marqué ma vie après. Dumas m'a laissé une certaine façon d'entendre la littérature, les romans, et surtout la manipulation de l'histoire, et l'introduction des éléments faux dans les carrés généraux et réels. Ça m'amuse beaucoup et je le fais toujours dans mes romans. La force de ça, c'est qu'aujourd'hui, on pense à Richelieu, pas comme l'histoire elle dit, mais comme Dumas. La raconter, ça c'est la force de la fiction quand elle est bien faite.
Alors pour revenir à Deux hommes de bien, le roman de Pérez Reverté, vous me disiez Bernard que le personnage le plus important du roman en fait, c'est Paris.
Oui, le Paris pré-révolutionnaire formidablement décrit par l'écrivain espagnol. On y est, qu'il s'agisse du Paris des philosophes et des encyclopédistes, au café Le Procope, du Paris des aristocrates et de leurs soirées libertines, ou du Paris misérable, celui de la colère populaire qui monte. Et on prend la mesure non seulement de l'érudition de Pérez Reverté, mais aussi de sa passion pour notre histoire et la France.
Quand j'étais petit, mon grand-père me disait « Arturo, tu dois apprendre le français ». Il disait « Pourquoi, grand-père ?» Il disait « Parce que chaque deux, trois générations d'Espagnols, il y a une génération qui doit s'exiler. Et pour nous, l'exil naturel, c'est la France. Alors, c'est très triste d'aller à l'exil sans parler la langue. » Et il avait raison. Et parce que pour nous, pour ma génération, pour ma famille, pour ma bibliothèque, pour mes grands-pères, pour mon père, la France, c'est toujours la référence culturelle, l'endroit où on regardait toujours. Et moi, quand j'ai commencé à voyager, à lire, je suis venu à Paris, j'ai marché la ville, les bibliothèques. Alors, j'ai un très vieux et très chéri rapport avec la France. Et bon, ces livres et son déviance, c'est une façon de rendre un peu à la France de ce que je dois, une petite partie de ma dette.
Oui, eh bien, je peux vous dire que cette dette, Arturo Pérez Reverte la rembourse au centuple avec le brillant et passionnant Deux hommes de bien, alors qui sera publié un jeudi prochain, 4 mai, au Seuil. L'entretien complet, et toujours avec l'accent de Pérez Reverte, est à retrouver sur RTL.fr.
Moi, je dis merci, Arturo. Tout ce qu'il nous a dit, non, c'est très émouvant, même sur sa famille et le rapport de l'Espagne à la France. Alors, on va revenir à l'actualité musicale de la semaine avec Steven. On commence par la ressortie, si l'on peut dire, le 26 mai prochain, d'un des albums les plus importants de l'histoire de la musique, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles.
Oui, sorti le 1er juin 1967, il fête donc cette année ses 50 ans. À cette occasion, l'album culte reparaît dans une version intégralement remixée. C'est la première fois qu'un album des Beatles est ainsi retraité, retravaillé. Il est passé entre les mains de Gilles Martin, le fils de George Martin, producteur historique des Beatles, qui est mort en mars 2016. La première chanson vient d'être dévoilée, il s'agit du titre éponyme. On entend vraiment la différence, le son est plus clair, la voix de Paul McCartney ressort davantage, elle est beaucoup plus en avant. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, version 2017, extrait. Cet album a révolutionné la musique. Il reparaît le 26 mai, on en reparlera.
Oh oui. On poursuit avec Alain Chamfort. Il chantera demain soir, salle Playel, à Paris, Steven.
Oui, il termine sa tournée 2 ans après la sortie de son excellent dernier disque qui portait simplement son nom. Il reste encore quelques places pour cette date parisienne. Et Alain Chamfort n'a pas prévu de prendre de vacances. Ensuite, il entrera en studio début mai pour enregistrer son 15e album. Et changement pour Chamfort, son parolier historique Jacques Duval fait une pause avec l'écriture. Il a donc confié les paroles à Pierre-Dominique Burgot. Les deux artistes se connaissent bien. Burgot était déjà au crédit de l'album concept Une vie Saint-Laurent qu'Alain Chamfort avait sorti en 2010. À quoi va ressembler ce nouvel opus ? Réponse d'Alain Chamfort.
Il va être assez différent parce que j'ai eu envie de continuer le parcours donc avec Pierre-Dominique Burgot et toutes ces nouvelles chansons, c'est en collaboration avec lui que je les ai écrites et je trouve que c'est vraiment une autre tonalité. On sort un petit peu du thème qui commençait avec Jacques, on avait vraiment fait le tour de beaucoup sur des chansons d'amour, sur la relation un peu complexe comme ça, affective. J'avais envie de sortir un peu de ces habitudes-là et c'est un peu la route qu'on a pris avec Pierre-Dominique où on est davantage dans des thèmes qui touchent quelqu'un de mon âge. Il est assez exigeant, je trouve, et assez épuré, voilà, quelque chose de simple, mais où chaque son est vraiment très très travaillé, quoi.
Sortie prévue cet automne.
Et on termine, une fois n'est pas coutume, avec Les Mondes Fantastiques, c'est le nouvel album jeunesse de Thierry Galli, Steven.
Oui, Thierry Galli enchaîne les projets pour les enfants depuis quelques années. Le dernier en date est un voyage dans le temps, autour de Chantal Lobby, Grégoire, Yves Lecoq, Michel Fugain ou Dave, un album qui alterne scènes racontées, morceaux inédits et reprises comme Si j'avais un marteau ou Si j'étais président. Et l'une des artistes invitées s'appelle Carla Bruni. La chanteuse n'est que narratrice dans le disque. Elle y interprète une sirène. J'ai rencontré Carla Bruni, à qui j'ai demandé comment elle s'était transformée en créature légendaire.
À force de chanter, ça me pendait au nez.
Pardonnez-moi, mais je me méfie quelque peu des humains.
Mais pourquoi de jolies sirènes ?
Ils font du mal aux animaux, à la nature, aux océans.
Bon, moi j'aime beaucoup les disques pour enfants, les chansons pour enfants en général, qui parfois sont des chansons un peu éternelles. Aussi, c'est un conte qui est très amusant, très 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 mystérieux, poétique, un peu écologique. Donc c'est un conte vraiment pour les enfants d'aujourd'hui, je pense.
Par la magie ancestrale des sirènes, que mes pouvoirs au centre du monde vous mènent.
Je pense que la musique rentre dans le cœur des enfants à travers les disques comme ceux de Thierry, ouais, facilement, parce que c'est une musique qui est faite pour eux et qui en même temps est de la musique universelle, quoi.
Vous en faites écouter à votre fille ?
Ah oui, beaucoup.
Elle réagit comment ?
Elle adore. Elle est très contente que je sois la sirène et pas le poulpe. Non, je blague.
Vous avez des souvenirs, vous, enfants, de musiques comme ça qui ont nourri votre inconscient ?
Ouais. Des musiques de disques italiens, beaucoup, beaucoup. Et puis sinon, toutes les musiques musique des dessins animés de Walt Disney qu'on connaît encore par cœur. Supercalifragilisticexpialidose.
Il faut le faire. Hein. Oui, l'album s'appelle Thierry et ses amis, les mondes fantastiques, ça vient de sortir. Carla Bruni fera, elle, son retour dans les toutes prochaines semaines. Elle m'a confié qu'elle allait distiller plusieurs extraits de son disque de reprise produit par David Foster.
Merci Steven. Alors après Mademoiselle Carla Bruni, Mademoiselle Younes avec Fellag et Mademoiselle Morini Bosque avec Candice Renoir. Oh, oui, c'est, aujourd'hui c'est très luxueux.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Monique Younes, oui. Vous nous parlez ce matin de Fellag, qui part en tournée en France avec son spectacle Blade Runner, Blade B-L-E-D, je le rappelle, après son triomphe au Théâtre du Rond-Point. Il s'agit en fait d'une compilation des meilleurs moments de ses précédents spectacles.
Oui, pour ne pas dire le best-of de Fellag, l'acteur reconstitue son parcours depuis la Kabylie, où il est né en 1950, jusqu'à son arrivée à Marseille en 1995. Entre-temps, la première rencontre avec des Français a lieu en 1955.
Une vieille légende soutenait qu'ils étaient très beaux. Le jour venu, les adultes les attendaient avec inquiétude et nous, les enfants, avec impatience. Les voilà ! Ils arrivent ! Nous commencions à apercevoir les soldats marchant difficilement sur la neige, leur lourd barda sur le dos, armes à l'épaule. Non ! C'est pas possible ! Ils sont noirs ! Quelque temps plus tard, j'avais compris que c'était un bataillon de tirailleurs sénégalais. 4 mois après, j'ai vu des vrais Français. Ils n'étaient pas noirs, ils étaient méchants.
Ça, c'est pour les Français, mais le français, Fellag l'a appris à l'école, tout comme il a appris l'histoire, l'histoire avec un grand H.
Mouloud ? Oui, monsieur. Quel est le plus grand fleuve d'Algérie ? C'est la Loire, monsieur. Très bien, Mouloud. Mouloud ? Oui, monsieur. Qui sont tes ancêtres ? Mes ancêtres sont les Gaulois, monsieur. Et que s'est-il passé en 732 ? En 732, notre ancêtre Charles Martel a vaincu les Arabes à Poitiers, monsieur. Très bien, Mouloud. Un bon point pour toi.
C'est une charge contre la France colonialiste ?
Et non, parce que ce qui est agréable avec Fellag, c'est que rien n'est exactement comme on l'annonce. Il en fait le principe de tous ses spectacles. Vous croyez que les Algériens détestent la France ? Et Fellag vous explique comment ils n'ont cessé de l'adorer. Il le raconte quand il évoque son arrivée à Marseille le 26 juillet 1995.
Finalement, la France, c'est une Algérie française qui a réussi. J'étais dans un autre Alger. Enfin, le même Alger, mais que les Français n'ont pas quitté en 1962. D'ailleurs, pourquoi vous êtes partis ? Pourquoi vous n'êtes pas restés là-bas ? Si vous étiez restés, on ne serait pas venu vous emmerder ici. Vous avez raté votre colonisation, nous avons raté notre indépendance, on est quitte. C'est vrai que nous, on reconnaît que vous avez fait des choses extraordinaires dans le pays. Vous avez créé des infrastructures immenses, vous avez créé des écoles, des collèges, des lycées, des routes, des voies ferrées, des aéroports, des villes. Mais vous l'avez fait pour vous. Et après, vous êtes partis sans nous laisser le mode d'emploi. Et maintenant, on fait tout à l'envers.
Ce que nous raconte le spectacle de Fellag, c'est comment le drame algérien a d'abord été culturel. Le triomphe politique de la décolonisation entraînant une véritable catastrophe sur le plan des arts, des idées et de la création en général, et donc sur le plan humain. Quand la France doute d'elle-même, Fellag lui rappelle la place immense qu'elle a dans le monde. Sa tournée avec Blade Runner est une déclaration d'amour patriotique que l'actualité électorale rend encore plus réconfortante.
Merci beaucoup Monique Younes, il faut rappeler à quel point il y a de la finesse et de l'humour dans le travail de Fellag. Alors on retourne à la télévision avec vous Isabelle Morini-Bosque et on retrouve ce soir notre pulpeuse Candice Renoir sur la 2.
Oui, là aussi il y a de l'humour. Alors, pulpeuse, c'est le mot. Les courbes de Cécile Bois et celles de l'audience sont exceptionnelles. Il y a eu quasiment 5 millions de téléspectateurs pour la saison 4 et le public est ravi de retrouver cette ravissante mère de 4 enfants, redevenue flic et chef de brigade après avoir été plaquée par son mari. Elle est, on le sait, je le rappelle, donc jouée par Cécile Bois. Les étrangers en raffolent, moi aussi. Vraiment, j'adore cette femme. Et le personnage et l'actrice qui l'incarne. Mais comme les chaînes ne se donnent jamais la peine de faire des résumés dignes de ce nom, je rappelle qu'à la fin de la saison 4, son amant officiel meurt en ouvrant un colis piégé qui lui est destiné à elle. Elle avait aussi une liaison avec son second. Elle va devoir tout assumer en saison 5. Et je livre avec échantillon, une femme d'affaires a été tuée, qui recevait régulièrement des fleurs. Le mari est suspect, l'adjointe de Candice, très agacée.
Non mais sérieux, t'as vu le bordel de la maison ? Y a pas qu'en affaires qu'il est nul le mec.
T'es dur.
Mais c'est un boulet, c'est elle qui ramène les frics à la maison. Je supporterais pas d'avoir un mec comme ça au foyer. Hein.
Mais l'inverse, ça te dérange pas.
Moi, en tout cas, je te parie tout ce que tu veux que le bouquet de fleurs, il y a un amant là-dessous.
Parce que tu t'y connais en amant ?
C'est vrai que c'est toi la spécialiste.
Et toc. Remarquez dans Candice Renoir, Cécile Bois avait pourtant avant tourné dans de très nombreuses fictions télé, mais une héroïne rondement sexy dans une série rondement menée, ça ne s'était quasiment pas vu depuis la série Nana avec Véronique Jeunet au début des années
Nana,
80.
C'est vrai,
dans Nana, on voyait pour la première fois de la petite cellulite à l'écran.
Oui, bah, il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Ça passe pas, hein. C'est difficile, hein. C'est difficile, les rondeurs. Ben, on vit dans un monde d'image et on fait un métier d'image en plus. On entre femmes, là, on peut en parler. Mais aller dire ça aux décideurs. Cela dit, les femmes peuvent être redoutables aussi entre elles. Ouais.
Ça fait longtemps qu'on vous voit.
Ben oui, mais encore une fois, c'est ce qui fait le plus de bruit qu'on entend, quoi. Et moi, j'ai une carrière plutôt discrète, contrastée aussi. Un exemple, je sortais d'Angélique au théâtre, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été mon premier contact avec la presse. Et j'ai eu des propositions par la suite que j'ai déclinées. J'ai préféré partir en Afrique, faire un film africain qui traitait de l'homosexualité. C'était la première fois qu'on traitait de l'homosexualité en Afrique. Ça a été un peu une terre de contraste, ma carrière. Et quand j'ai eu le non-choix, il a fallu que je mange. J'ai pas honte pour autant. J'ai fait des films moins forts, plus classiques. Voilà.
Alors, être ronde, franchement, c'est vexant ou c'est un compliment ? C'est pris comme un compliment.
Je le prends comme une réalité. Oui, c'est vrai, je suis ronde, bien sûr. En plus.
Moins ?
Là, oui, mais c'est pour préparer la prochaine saison aussi. Et puis pour moi aussi, pour voir si je suis capable encore de mincir. À un moment, à force d'être ronde, on n'arrive plus à devenir plus mince. Donc j'ai eu besoin de faire un petit électrochoc à mon corps pour voir si je pouvais réussir à être à nouveau mince si je le décidais.
Votre mot de la fin, c'est ?
Bah, j'espère que la saison va vous plaire parce que j'ai passé 7 mois à la faire, j'en ai trimé. Donc... J'aimerais bien que ça en vaille la peine.
C'est vraiment l'une des meilleures séries comédie policière, voilà.
Alors on signale ce soir aussi le portrait de Gabin sur la 3.
Oui.
Et à propos de cinéma, bah faut signaler mardi cinéma, dimanche sur la 2.
Oui, mardi cinéma le dimanche, fallait oser. On le sait, Laurent Ruquier reprend l'émission de Père Tchernia, une émission qui comprend...
À la fois de l'actualité cinéma, le retour sur un film et aussi évidemment des jeux avec les acteurs de manière à détendre tout le monde en plateau. Non seulement ceux qui sont en plateau, mais aussi j'espère les téléspectateurs qui regarderont l'émission. Manifestement, les gens du cinéma aiment bien cette émission, ont envie d'y venir, aiment y participer... C'est une émission grand public et je crois que non, les acteurs, les réalisateurs aiment venir s'y amuser. Moi, je suis demandeur pour aller faire mardi cinéma à Cannes. J'attends la décision de Madame Ernotte. Voilà.
Message transmis, il est au micro de Laurent Marcy qui était présent à l'enregistrement. Le film choisi pour commencer la soirée, c'est Première en clair, La famille Bélier, avec Louane ensuite présente sur le plateau. On lui demande souvent si c'est difficile d'en sortir de ce film. Oui, c'est quand même gratifiant d'être dimanche dans mardi cinéma.
Ah oui.
Oui, il y a un petit côté gratifiant, ça reste impressionnant, même 4 ans après. Je suis très très heureuse de pouvoir partager ce plateau avec Eric et avec Lucas, et ça remémore beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'en sortirai ou pas, à vrai dire, je ne sais pas vraiment si j'ai besoin d'en sortir, parce que c'était mon premier film en fait, c'est la première fois de ma vie qu'on me voyait à l'écran cinématographiquement parlant, donc en vrai, dire vouloir m'en sortir, ce serait peut-être un peu trop, au contraire, c'est une jolie fierté pour moi en fait.
Juste un petit échantillon de Valérie Mercier, le Mercier chantant du Louane.
Je suis sûr que Valérie Le Mercier peut chanter du Louane.
Amour numéro 1, dis-moi que tu m'aimes. C'est pas ça ?
Si, bien sûr, c'est le jour 1.
Jour 1, voilà. Amour numéro 1, dis-moi que tu m'aimes. Après, jour 2.
Voilà, c'est donc dimanche.
Vous voulez que j'enchaîne, c'est ça ?
Dimanche à 20h55 sur la 2. Oui, on en avait bien profité.
Ah, pardonnez-moi, excusez-moi. C'était donc mardi cinéma. Allez, on se retrouve dans un instant avec notre Julien Courbet national.
Julien Courbet qui présente.
Bah, on va le dire dans un instant. Attends, vous allez voir.
RTL Matin. Laissez-vous tenter.
Merci à toute l'équipe. Alors, Isabelle est évidemment toujours au courant de tout. Bonjour Julien.
Comment allez-vous ?
Très bien, d'autant plus que vous savez qu'on ne rate jamais aucune de vos apparitions et qu'on voulait signaler ce soir à 21h sur C8, Abus de confiance, les maîtres de l'arnaque. C'est une émission sur les plus grandes histoires d'escroquerie, d'imposture et de braquage.
Voilà. Mais c'est surtout,
c'est formidable, j'ai vu.
La réalité, on voit, est plus forte que la fiction parce qu'ils ont des scénarios incroyables. Je pense notamment à l'un de ceux qu'on va voir, qui s'appelle Chicli, dont vous avez certainement entendu parler.
Ah oui, Monsieur Chicli.
qui arrive quand même au téléphone à convaincre des présidents de sociétés de lui donner de l'argent, étant agent secret lui-même pour lutter contre le terrorisme, le président va voir sa secrétaire, il faut le faire, lui donne une mallette, et la secrétaire qui part avec sa petite mallette remplie de billets se cacher dans les toilettes d'une brasserie, où là, quelqu'un va venir et va taper à la porte, elle va glisser la mallette et va le faire au moins 20 fois le coup. Vous rendez compte un peu ? Et s'enrichir comme ça, c'est des trucs de dingue. Non, vraiment, on s'est régalé, c'est un beau documentaire.
On adore ces histoires, on vous suivra avec plaisir.
Eh bien, merci. Et j'ai envie de chanter la chanson du Roi Lion pour vous, Yves Calvi.
Comment
c'est l'histoire de Calvi. Merci, vous m'avez mis de bonne humeur. Bonne journée.
Allez, bonne émission.
À bientôt.
Vous écoutez RTL.